Chapitre 6. Les confidences, les ambassadeurs. La première chose qu'apprit le duc d'Anjou en arrivant au Louvre, c'est que l'entrée solennelle des ambassadeurs était fixée au cinquième jour. Les tailleurs et les joailliers attendaient le prince avec de magnifiques habits et de superbes parures que le roi avait commandées pour lui. Pendant qu'il les essayait avec une colère qui mouillait ses yeux de larmes, Henri de Navarre s'égayait fort d'un magnifique collier d'émeraude, d'une épée à poignée d'or et d'une bague précieuse que Charles lui avait envoyée le matin même. D'Alençon venait de recevoir une lettre et s'était renfermé dans sa chambre pour la lire en toute liberté. Quant à Coconas, il demandait son ami à tous les échos du Louvre. En effet, comme on le pense bien, Coconas, assez peu surpris de ne pas voir rentrer la mole de toute la nuit, avait commencé, dans la matinée, à concevoir quelque inquiétude. Il s'était en conséquence mis à la recherche de son ami, commençant son investigation par l'hôtel de la Belle Étoile, passant de l'hôtel de la Belle Étoile à la rue Cloche-Percée, et de la rue Cloche-Percée à la rue Tison, de la rue Tison au pont Saint-Michel, enfin du pont Saint-Michel au Louvre. Cette investigation avait été faite vis-à-vis de ceux auxquels elle s'adressait d'une façon tantôt si originale, tantôt si exigeante, ce qui est facile à concevoir quand on connaît le caractère excentrique de Coconas, qu'elle avait suscité entre lui et les trois seigneurs de la cour des explications qui avaient fini à la mode de l'époque, c'est-à-dire sur le terrain. Coconas avait mis à ses rencontres la science qu'il mettait d'ordinaire à ces sortes de choses. Il avait tué le premier et blessé les deux autres en disant « Eh, ces pauvres la mole, ils savaient si bien le latin !» C'est au point que le dernier, qui était le baron de Boissé, lui avait dit en tombant « Ah, pour l'amour du ciel, Coconas, varie un peu et dis au moins s'il savait le grec !» Enfin, le bruit de l'aventure du corridor avait transpiré. Coconas s'en était gonflé de douleur. Il apprit que d'Alençon avait été de la partie, et passant par-dessus la majesté qui entourait le prince du sang, il l'alla trouver et lui demanda une explication comme il l'eût fait envers un simple gentilhomme. D'Alençon eut d'abord bonne envie de mettre à la porte l'impertinent qui venait lui demander compte de ses actions, mais Coconas parlait d'un ton de voix si bref, ses yeux flamboyaient d'un tel éclat, l'aventure des trois duels en moins de 24 heures avait placé le piémontais si haut qu'il réfléchit, et qu'au lieu de se livrer à son premier mouvement, il répondit à son gentilhomme avec un charmant sourire. « Mon cher Coconas, il est vrai que le roi, furieux d'avoir reçu sur l'épaule une aiguillère d'argent, le duc d'Anjou, mécontent d'avoir été coiffé avec une compote d'orange, et le duc de Guise, humilié d'avoir été souffleté avec un quartier de sanglier, ont fait la partie de tuer monsieur de la Mole, mais un ami de votre ami a détourné le coup, la partie a donc manqué, je vous en donne ma parole de prince. » Ah, fit Coconas, respirant sur cette assurance comme un soufflet de forge. Ah, mordi, monseigneur, voilà qui est bien, et je voudrais connaître cet ami pour lui prouver ma reconnaissance. Monsieur d'Alençon ne répondit rien, mais sourit plus agréablement encore qu'il ne l'avait fait, ce qui laissa croire à Coconas que cet ami n'était autre que le prince lui-même. « Eh bien, monseigneur, reprit-il, puisque vous avez tant fait de me dire le commencement de l'histoire, mettez le comble à vos bontés en me racontant la fin. On voulait le tuer, mais on ne l'a pas tué, me dites-vous. Voyons, qu'en a-t-on fait? Eh, je suis courageux, allez, dites, je sais supporter une mauvaise nouvelle. On l'a jeté dans quelque cul de basse-fosse, n'est-ce pas? Ah, tant mieux, cela me rendra circonspect. » Il ne veut jamais écouter mes conseils. D'ailleurs, on l'en tirera mordi. Les pierres ne sont pas dures pour tout le monde. » D'Alençon hocha la tête. Le pis de tout cela, dit-il, mon brave Coconas, c'est que depuis cette aventure, ton ami a disparu sans qu'on sache où il est passé. Mordi! S'écria le piémontais en pâlissant de nouveau. Fut-il passé en enfer, je saurais où il est. Écoute, dit d'Alençon qui avait, mais par des motifs bien différents, aussi bonne envie que Coconas de savoir où était la mole, je te donnerai un conseil d'ami. Eh, « Donnez, monseigneur, dit Coconas, donnez. Va trouver la reine Marguerite, elle doit savoir ce qu'est devenu, lui, celui que tu pleures. Eh, « S'il faut que j'avoue à votre Altesse, dit Coconas, j'y avais déjà pensé, mais je n'avais point osé. car outre que Madame Marguerite m'impose plus que je ne saurais dire, j'aurais peur de la trouver dans les larmes, mais puisque Votre Altesse m'assure que la Mole n'est pas mort et que Sa Majesté doit savoir où il est, je vais faire provision de courage et aller la trouver. Va, mon ami, va, dit le duc d'Alençon, et quand tu sauras des nouvelles, donne-m'en à moi-même, car je suis en vérité aussi inquiet que toi. Seulement, souviens-toi d'une chose, Coconas. Laquelle? Ne dis pas que tu viennes de ma part, car en commettant cette imprudence, tu pourrais bien ne rien apprendre. Monseigneur, dit Coconas, dis moment que Votre Altesse me recommande le secret sur ce point, je serai muet comme une tanche ou comme la reine mère. Bon prince, excellent prince, prince magnanime, murmura Coconas en se rendant chez la reine de Navarre. Marguerite attendait Coconas, car le bruit de son désespoir était arrivé jusqu'à elle. Il fut donc introduit chez la reine aussitôt qu'annoncé. Coconas entra, sans pouvoir surmonter ce certain embarras dont il avait parlé à d'Alençon, qu'il éprouvait toujours en face de la reine, et qui lui était bien plus inspiré par la supériorité de l'esprit que par celle du rang. Mais Marguerite l'accueillit avec un sourire qui le rassura tout d'abord. « Eh, madame, dit-il, rendez-moi mon ami, je vous en supplie, ou dites-moi tout au moins ce qu'il est devenu, car sans lui je ne puis pas vivre. » Marguerite sourit, et après avoir fait promettre le secret à Coconas, elle lui raconta la fuite par la fenêtre. Quant au lieu de son séjour, si instante que fussent les prières du Piémontais, elle garda sur ce point le plus profond silence. Cela ne satisfaisait qu'à demi Coconas. Aussi se laissa-t-il aller à des aperçus diplomatiques de la plus haute sphère. Il en résulta que Marguerite vit clairement que le duc d'Alençon était de moitié dans le désir qu'avait son gentilhomme de connaître ce qu'était devenu la Mole. « Eh bien, dit la reine, si vous voulez absolument savoir quelque chose de positif sur le compte de votre ami, demandez au roi Henri de Navarre, c'est le seul qui ait le droit de parler. Quant à moi, tout ce que je puis dire, c'est que celui que vous cherchez est vivant, croyez-en ma parole. » « J'en crois une chose plus certaine encore, madame, répondit Coconas, c'est ce sont vos beaux yeux, et qu'ils n'ont point pleuré. » Puis, croyant qu'il n'y avait rien à ajouter à une phrase qui avait le double avantage de rendre sa pensée et d'exprimer la haute opinion qu'il avait du mérite de la Mole, Coconas se retira en ruminant un raccommodement avec madame de Nevers, non pas pour elle personnellement, mais pour savoir d'elle ce qu'il n'avait pu savoir de Marguerite. Les grandes douleurs sont des situations anormales dont l'esprit secoue le joug aussi vite qu'il lui est possible. L'idée de quitter Marguerite avait d'abord brisé le cœur de la Mole, et c'était bien plus pour sauver la réputation de la reine que pour préserver sa propre vie qu'il avait consenti à fuir. Aussi, dès le lendemain au soir, était-il revenu à Paris pour revoir Marguerite à son balcon. Marguerite, de son côté, comme si une voix secrète lui eût appris le retour du jeune homme, avait passé toute la soirée à sa fenêtre. Il en résulta que tous deux s'étaient revus avec ce bonheur indicible qui accompagne les jouissances défendues. Il y a même plus. L'esprit mélancolique et romanesque de la Mole trouvait un certain charme à ce contretemps. Cependant, comme l'amant véritablement épris n'est heureux qu'un moment, celui pendant lequel il voit ou possède ou souffre pendant tout le temps de l'absence, la Mole, ardent de revoir Marguerite, s'occupa d'organiser au plus vite l'événement qui devait la lui rendre, c'est-à-dire la fuite du roi de Navarre. Quant à Marguerite, elle se laissait, de son côté, aller au bonheur d'être aimée avec un dévouement si pur. Souvent, elle s'en voulait de ce qu'elle regardait comme une faiblesse. Elle, cet esprit viril, méprisant les pauvretés de l'amour vulgaire, insensible aux minuties qui en font pour les âmes tendres le plus doux, le plus délicat, le plus désirable de tous les bonheurs, elle trouvait sa journée, sinon heureusement remplie, du moins heureusement terminée, quand vers 9 heures, paraissant à son balcon, vêtue d'un peignoir blanc, elle apercevait sur le quai, dans l'ombre, un cavalier dont la main se posait sur ses lèvres, sur son cœur. C'était alors une toux significative qui rendait à l'amant le souvenir de la voix aimée. C'était quelquefois aussi un billet vigoureusement lancé par une petite main et qui enveloppait quelques bijoux précieux, mais bien plus précieux encore pour avoir appartenu à celle qui l'envoyait que pour la matière qui lui donnait sa valeur et qui allait alors résonner sur le pavé à quelques pas du jeune homme. Alors la mole, pareille à un milan, fondée sur cette proie, la serrait dans son sein, répondait par la même voix, et Marguerite ne quittait son balcon qu'après avoir entendu se perdre dans la nuit les pas du cheval poussé à toute bride pour venir, et qui, pour s'éloigner, semblait d'une matière aussi inerte que le fameux colosse qui perdit Troie. Voilà pourquoi la reine n'était pas inquiète du sort de la mole, auquel, du reste, de peur que ses pas ne fussent épiés, elle refusait opiniâtrement tout autre rendez-vous que ses entrevues à l'espagnol, qui duraient depuis sa fuite et se renouvelaient dans la soirée de chacun des jours qui s'écoulaient dans l'attente de la réception des ambassadeurs, réception remise à quelques jours, comme on l'a vu, par les ordres exprès d'Ambroise Paré. La veille de cette réception, vers 9 heures du soir, comme tout le monde au Louvre était préoccupé des préparatifs du lendemain, Marguerite ouvrit sa fenêtre et s'avança sur le balcon. Mais à peine y fut-elle que, sans attendre la lettre de Marguerite, la mole, plus pressée que de coutume, envoya la sienne, qui vint, avec son adresse accoutumée, tomber aux pieds de sa royale maîtresse. Marguerite comprit que la missive devait renfermer quelque chose de particulier. Elle rentra pour le lire. Le billet sur le recto de la première page renfermait ces mots « Madame, il faut que je parle au roi de Navarre, l'affaire est urgente, j'attends ». Et sur le second recto, ces mots, que l'on pouvait isoler des premiers en séparant les deux feuilles « Madame et ma reine, faites que je puisse vous donner un de ces baisers que je vous envoie, j'attends ». Marguerite achevait à peine cette seconde partie de la lettre qu'elle entendit la voix du roi de Navarre, qui, avec sa réserve habituelle, frappait à la porte commune et demandait à Gionne s'il pouvait entrer. La reine divisa aussitôt la lettre, mit une des pages dans son corset, l'autre dans sa poche, courut à la fenêtre qu'elle ferma, et s'élançant vers la porte, « Entrez, sire, » dit-elle. Si doucement, si promptement, si habilement que Marguerite eût fermé cette fenêtre, la commotion en était arrivée jusqu'à Henri, dont les sens toujours tendus avaient, au milieu de cette société dont il se défiait si fort, presque acquis l'exquise délicatesse où ils sont portés chez l'homme vivant à l'état sauvage. Mais le roi de Navarre n'était pas un de ces tyrans qui veulent empêcher leurs femmes de prendre l'air et de contempler les étoiles. Henri était souriant et gracieux, comme d'habitude. « Madame, dit-il, tandis que nos gens de cour essaient leurs habits de cérémonie, je pense à venir échanger avec vous quelques mots de mes affaires, que vous continuez de regarder comme les vôtres, n'est-ce pas ?»« Certainement, monsieur, répondit Marguerite, nos intérêts ne sont-ils pas toujours les mêmes ?»« Oui, madame, et c'est pour cela que je voulais vous demander ce que vous pensez de l'affectation que monsieur le duc d'Alençon met depuis quelques jours à me fuir, à ce point que depuis avant-hier il s'est retiré à Saint-Germain. Votre majesté a raison de s'inquiéter du silence de mon frère. J'y ai songé aujourd'hui toute la journée, et mon avis est que, les circonstances ayant changé, il a changé avec elle. » C'est-à-dire, n'est-ce pas, que voyant le roi Charles malade, le duc d'Anjou, roi de Pologne, il ne serait pas fâché de demeurer à Paris pour garder à vue la couronne de France. Justement. Soit, je ne demande pas mieux, dit Henri, qu'il reste, seulement cela change tout notre plan. Ce qui m'étonne seulement, c'est de ne pas entendre parler de monsieur de Mouy. Ce n'est point son habitude de demeurer ainsi sans bouger. N'en auriez-vous point des nouvelles, madame? « Moi, sire, dit Marguerite, étonnée, et comment voulez-vous ? Pardieu, mamie, rien ne serait plus naturel. Vous avez bien voulu, pour me faire plaisir, sauver la vie au petit La Mole. Ce garçon a dû aller à Mantes, et quand on y va, on en peut bien revenir. »« Ah, voilà qui me donne la clé d'une énigme dont je cherchais vainement le mot, répondit Marguerite. » J'aurais laissé la fenêtre ouverte, et j'ai trouvé, en rentrant sur mon tapis, une espèce de billet. « Voyez-vous cela ? » dit Henri. « Un billet auquel je n'ai d'abord rien compris et auquel je n'ai attaché aucune importance, » continua Marguerite. « Peut-être avais-je tort, et vient-il de ce côté-là ? » « C'est possible, » dit Henri, « j'oserais même dire que c'est probable. Peut-on voir ce billet ?»« Certainement, sire, » répondit Marguerite en remettant au roi celle des deux feuilles de papier qu'elle avait introduites dans sa poche. Le roi jeta les yeux dessus. Il lut, « Madame, il faut que je parle au roi de Navarre. L'affaire est urgente, j'attends. »« Ah, oui, da !» continua Henri. « Voyez-vous, il dit qu'il attend. »« Certainement, je le vois, » dit Marguerite, « mais que voulez-vous »« Ventre Saint-Gris, je veux qu'il vienne. Qu'il vienne, s'écria Marguerite en fixant sur son mari ses beaux yeux étonnés. Comment pouvez-vous dire une chose pareille, sire? Un homme que le roi a voulu tuer, qui est signalé, menacé. Qu'il vienne, dites-vous, est-ce que c'est possible? Les portes sont-elles bien faites pour ceux qui ont été obligés de fuir par la fenêtre, voulez-vous dire? Justement, vous achevez ma pensée. Eh bien, mais s'ils connaissent le chemin de la fenêtre, qu'ils reprennent ce chemin, puisqu'ils ne peuvent entrer par la porte, c'est tout simple, cela. « Vous croyez, dit Marguerite, rougissant de plaisir à l'idée de se rapprocher de la mole, n'avez-vous donc pas conservé l'échelle de corde que je vous avais envoyée? Ah, je ne reconnaîtrai point là votre prévoyance habituelle. »« Si fait, sire, dit Marguerite. »« Alors c'est parfait, dit Henri. Qu'ordonne donc votre majesté ?»« Mais c'est tout simple, dit Henri, attachez-le à votre balcon et laissez-la pendre. Si c'est Demouy qui attend, et je serais tenté de le croire, si c'est Demouy qui attend et qu'il veuille monter, il montera ce digne ami. » Et sans perdre de son flegme, Henri prit la bougie pour éclairer Marguerite dans la recherche qu'elle s'apprêtait à faire de l'échelle. La recherche ne fut pas longue, elle était enfermée dans une armoire du fameux cabinet. « Là, c'est cela, dit Henri. Maintenant, madame, si ce n'est pas trop exigé de votre complaisance, attachez, je vous prie, cette échelle au balcon. »« Et pourquoi moi, et pas vous, sire ?» dit Marguerite. « Parce que les meilleurs conspirateurs sont les plus prudents. La vue d'un homme effaroucherait peut-être notre ami, vous comprenez ?» Marguerite sourit et attacha l'échelle. « Là, dit Henri en restant caché dans l'angle de l'appartement, montrez-vous bien, maintenant faites voir l'échelle. À merveille, je suis sûr que Demouy va monter. » En effet, 10 minutes après, un homme ivre de joie enjamba le balcon et voyant que la reine ne venait pas au-devant de lui, demeura quelques secondes hésitant. Mais à défaut de Marguerite, Henri s'avança. « Tiens, dit-il gracieusement, ce n'est point de Mouy, c'est Monsieur de la Mole. Bonsoir, Monsieur de la Mole, entrez donc, je vous prie. » La Mole demeura un instant stupéfait. Peut-être s'il eût été encore suspendu à son échelle au lieu d'être posé le pied ferme sur le balcon, fût-il tombé en arrière. « Vous avez désiré parler au roi de Navarre pour affaire urgente, dit Marguerite. Je l'ai fait prévenir et le voilà. » Henri alla fermer la fenêtre. « Je t'aime, dit Marguerite en serrant vivement la main du jeune homme. « Eh bien, monsieur, fit Henri en présentant une chaise à la Mole, que disons-nous »« Nous disons, sire, répondit celui-ci, que j'ai quitté monsieur de Mouy à la barrière. Il désire savoir si Maurevel a parlé ou si sa présence dans la chambre de votre majesté est connue. »« Pas encore, mais cela ne peut tarder. Il faut donc nous hâter. » « Votre opinion est la sienne, sire, et si demain, pendant la soirée, M. d'Alençon est prêt à partir, il se trouvera à la porte Saint-Marcel avec 150 hommes. 500 vous attendront à Fontainebleau, alors vous gagnerez Blois, Angoulême et Bordeaux. » « Madame, dit Henri en se tournant vers sa femme, demain, pour mon compte, je serai prêt. Le serez-vous ? » Les yeux de la Mole se fixèrent sur ceux de Marguerite avec une profonde anxiété. « Vous avez ma parole, dit la reine, partout où vous irez, je vous suis. Mais vous le savez, il faut que M. d'Alençon parte en même temps que nous. Pas de milieu avec lui, il nous sert ou il nous trahit. S'il hésite, ne bougeons pas. » « Sait-il quelque chose de ce projet, M. de la Mole ?» demanda Henri. « Il a dû, il y a quelques jours, recevoir une lettre de M. de Mouy. »« Ah, dit Henri, il ne m'a parlé de rien. »« Défiez-vous, monsieur, dit Marguerite, défiez-vous. » « Soyez tranquille, je suis sur mes gardes. Comment faire réponse à Monsieur de Mouy ?»« Ne vous inquiétez de rien, sire. À droite ou à gauche de votre majesté, visible ou invisible, demain, pendant la réception des ambassadeurs, il sera là. Un mot dans le discours de la reine qui lui fasse comprendre si vous consentez ou non, s'il doit fuir ou vous attendre. Si le duc d'Alençon refuse, il ne demande que 15 jours pour tout réorganiser en votre nom. » « En vérité, dit Henri, de Mouy est un homme précieux. Voulez-vous intercaler dans votre discours la phrase attendue, madame ?»« Rien de plus facile, répondit Marguerite. « Alors, dit Henri, je verrai demain M. d'Alençon, que M. de Mouy soit à son poste et qu'on prenne à demi-mot. » »« Il y sera, sire. » »« Eh bien, monsieur de la Mole, dit Henri, allez lui porter ma réponse. Vous avez sans doute dans les environs un cheval, un serviteur. » Horton est là, qui m'attend sur le quai. Allez le rejoindre, monsieur le comte. Oh, non point par la fenêtre, c'est bon pour les occasions extrêmes, vous pourriez être vu, et comme on ne saurait pas que c'est pour moi que vous vous exposez ainsi, vous compromettriez la reine. Mais par où, sire? Si vous ne pouvez pas entrer seul au Louvre, vous en pouvez sortir avec moi, qui est le mot d'ordre. Vous avez votre manteau, j'ai le mien, nous nous envelopperons tous les deux, et nous traverserons le guichet sans difficulté. D'ailleurs, je serais aise de donner quelques ordres particuliers à Horton. Attendez ici, je vais voir s'il n'y a personne dans les corridors. Henri, de l'air du monde le plus naturel, sortit pour aller explorer le chemin. La Mole resta seule avec la reine. « Oh, quand vous reverrai-je ?» dit la Mole. « Demain soir, si nous fouillons, un de ces jours, dans la maison de la rue Cloche-Percée, si nous ne fouillons pas... »« Monsieur de la Mole, » dit Henri en rentrant, « vous pouvez venir, il n'y a personne. » La Mole s'inclina respectueusement devant la reine. « Donnez-lui votre main à baiser, madame, » dit Henri. « Monsieur de la Mole n'est pas un serviteur ordinaire. » Marguerite obéit. « À propos, dit Henri, serrez l'échelle de corde avec soin, c'est un meuble précieux pour les conspirateurs, et au moment où on s'y attend le moins, on peut avoir besoin de s'en servir. Venez, monsieur de la Mole, venez !» Le lendemain, toute la population de Paris s'était portée vers le faubourg Saint-Antoine, par lequel il avait été décidé que les ambassadeurs polonais feraient leur entrée. Une haie de Suisses contenait la foule et des détachements de cavaliers protégeaient la circulation des seigneurs et des dames de la cour qui se portaient au devant du cortège. Bientôt parut, à hauteur de l'abbaye Saint-Antoine, une troupe de cavaliers vêtus de rouge et de jaune avec des bonnets et des manteaux fourrés et tenant à la main des sabres larges et recourbés comme des cimetières de Turcs. Les officiers marchaient sur le flanc des lignes. Derrière cette première troupe en venait une seconde équipée avec un luxe tout à fait oriental. Elle précédait les ambassadeurs qui, au nombre de quatre, représentaient magnifiquement le plus mythologique des royaumes chevaleresques du XVIe siècle. L'un de ces ambassadeurs était l'évêque de Cracovie. Il portait un costume demi-pontifical, demi-guerrier, mais éblouissant d'or et de pierreries. Son cheval blanc, à longs crins flottants et aux pas relevés, semblait souffler le feu par ses naseaux. Personne n'aurait pensé que depuis un mois, le noble animal faisait 15 lieues chaque jour par des chemins que le mauvais temps avait rendus presque impraticables. Près de l'évêque marchait le palatin Lasco, puissant seigneur, si rapproché de la couronne qu'il avait la richesse d'un roi comme il en avait l'appareil. Après les deux ambassadeurs principaux, qu'accompagnaient deux autres palatins de haute naissance, venait une quantité de seigneurs polonais dont les chevaux, harnachés de soie, d'or et de pierreries, excitèrent la bruyante approbation du peuple. En effet, les cavaliers français, malgré la richesse de leurs équipages, étaient complètement éclipsés par ces nouveaux venus qu'ils appelaient dédaigneusement des barbares. Jusqu'au dernier moment, Catherine avait espéré que la réception serait remise encore et que la décision du roi céderait à la faiblesse qui continuait. Mais lorsque le jour fut venu, lorsqu'elle vit Charles, pâle comme un spectre, revêtir le splendide manteau royal, elle comprit qu'il fallait plier, en apparence, sous cette volonté de fer, et elle commença à croire que le plus sûr parti pour Henri d'Anjou était l'exil magnifique auquel il était condamné. Charles a parlé quelques mots qu'il avait prononcés lorsqu'il avait ouvert les yeux, au moment où sa mère sortait du cabinet, n'avait point parlé à Catherine depuis la scène qui avait amené la crise à laquelle il avait failli succomber. Cependant, tout était préparé au Louvre, non pas comme pour une fête, il est vrai, mais comme pour quelque lugubre cérémonie. L'obéissance de chacun avait été morne et passive. On savait que Catherine avait presque tremblé, et tout le monde tremblait. La grande salle de réception du palais avait été préparée, et comme ces sortes de séances étaient ordinairement publiques, les gardes et les sentinelles avaient reçu l'ordre de laisser entrer, avec les ambassadeurs, tout ce que les appartements et les cours pouvaient contenir de populaire. Quant à Paris, son aspect était toujours celui que présente la grande ville en pareille circonstance, c'est-à-dire empressement et curiosité. Seulement, quiconque eût bien considéré ce jour-là la population de la capitale eût reconnu parmi les groupes, composés de ces honnêtes figures de bourgeois naïvement béates, bon nombre d'hommes enveloppés dans de grands manteaux, se répondant les uns aux autres par des coups d'œil, des signes de la main quand ils étaient à distance, et échangeant à voix basse quelques mots rapides et significatifs toutes les fois qu'ils se rapprochaient. Ces hommes, au reste, paraissaient fort préoccupés du cortège, le suivaient les premiers, et paraissaient recevoir leurs ordres d'un vénérable vieillard dont les yeux noirs et vifs faisaient, malgré sa barbe blanche et ses sourcils grisonnants, ressortir la verte activité. En effet, ce vieillard, soit par ses propres moyens, soit qu'il fût aidé par les efforts de ses compagnons, parvint à se glisser des premiers dans le Louvre, et grâce à la complaisance du chef des Suisses, digne huguenot fort peu catholique malgré sa conversion, trouva moyen de se placer derrière les ambassadeurs, juste en face de Marguerite et de Henri de Navarre. Henri, prévenu par la Mole que Demouy devait, sous un déguisement quelconque, assister à la séance, jetait des yeux de tous les côtés. Enfin, ses regards rencontrèrent ceux du vieillard et ne le quittèrent plus. Un signe de Demouy avait fixé tous les doutes du roi de Navarre, car Demouy était si bien déguisé que Henri lui-même avait douté que ce vieillard à barbe blanche pût être le même que cet intrépide chef des Huguenots qui avait fait 5 ou 6 jours auparavant une si rude défense. Un mot de Henri, prononcé à l'oreille de Marguerite, fixa les regards de la reine sur Demouy. Puis alors ses beaux yeux s'égarèrent dans les profondeurs de la salle. Elle cherchait la Mole, mais inutilement. La Mole n'y était pas. Les discours commencèrent. Le premier fut au roi. Lascaux lui demandait, au nom de la Diète, son assentiment à ce que la couronne de Pologne fût offerte à un prince de la Maison de France. Charles répondit par une adhésion courte et précise, présentant le duc d'Anjou, son frère, du courage duquel il fit un grand éloge aux envoyés polonais. Il parlait en français, un interprète traduisait sa réponse après chaque période. Et pendant que l'interprète parlait à son tour, on pouvait voir le roi approcher de sa bouche un mouchoir qui, à chaque fois, s'en éloignait teint de sang. Quand la réponse de Charles fut terminée, Lascaux se tourna vers le duc d'Anjou, s'inclina et commença un discours latin dans lequel il lui offrait le trône au nom de la nation polonaise. Le duc répondit dans la même langue et d'une voix dont il cherchait en vain à contenir l'émotion, qu'il acceptait avec reconnaissance l'honneur qui lui était décerné. Pendant tout le temps qu'il parla, Charles resta debout, les lèvres serrées, l'œil fixé sur lui, immobile et menaçant comme l'œil d'un aigle. Quand le duc d'Anjou eut fini, Lascaux prit la couronne des Jagellons posée sur son coussin de velours rouge, et tandis que 2 seigneurs polonais revêtaient le duc d'Anjou du manteau royal, il déposa la couronne entre les mains de Charles. Charles fit un signe à son frère, le duc d'Anjou vint s'agenouiller devant lui, et de ses propres mains, Charles lui posa la couronne sur la tête. Alors les deux rois échangèrent un des plus haineux baisers que se soit jamais donné de frère. Aussitôt un héros cria « Alexandre-Édouard-Henri de France, duc d'Anjou, vient d'être couronné roi de Pologne, vive le roi de Pologne !» Toute l'assemblée répéta d'un seul cri « Vive le roi de Pologne !» Alors Lascaux se tourna vers Marguerite. Le discours de la belle reine avait été gardé pour le dernier, or comme c'était une galanterie qui lui avait été accordée pour faire briller son beau génie, comme on disait alors, chacun porta une grande attention à la réponse qui devait être en latin. Nous avons vu que Marguerite l'avait composée elle-même. Le discours de Lascaux fut plutôt un éloge qu'un discours. Il avait cédé, tout sarmate qu'il était, à l'admiration qu'inspirait à tous la belle reine de Navarre. Et empruntant la langue à Ovide, mais le style à Ronsard, il dit que, parti de Varsovie au milieu de la plus profonde nuit, il n'aurait su, lui et ses compagnons, comment retrouver leur chemin, si, comme les rois mages, il n'avait eu 2 étoiles pour les guider, étoiles qui devenaient de plus en plus brillantes à mesure qu'ils approchaient de la France et qu'ils reconnaissaient maintenant n'être autre chose que les 2 beaux yeux de la reine de Navarre. Enfin, passant de l'Évangile au Coran, de la Syrie à l'Arabie pétrée, de Nazareth à la Mecque, il termina en disant qu'il était tout prêt à faire ce que faisaient les spectateurs ardents du prophète, qui, une fois qu'ils avaient eu le bonheur de contempler son tombeau, se crevaient les yeux, jugeant qu'après avoir vu une si belle chose, rien dans le monde ne valait plus la peine d'être admiré. Ce discours fut couvert d'applaudissements de la part de ceux qui parlaient latin parce qu'ils partageaient l'opinion de l'orateur, de la part de ceux qui ne l'entendaient point parce qu'ils voulaient avoir l'air de l'entendre. Marguerite fit d'abord une gracieuse référence au galant Sarmate, puis, tout en répondant à l'ambassadeur, fixant les yeux sur Demouy, elle commença en ces termes. Quod nunc ac in aula esperati adestis exultaremus, ego et coniux nisi ideo immineret calamitas, silicet non solum fratris, et etiam amici orbitas. Votre présence inespérée dans cette cour nous comblerait de joie, moi et mon mari, si elle n'amenait un grand malheur, c'est-à-dire non seulement la perte d'un frère, mais encore celle d'un roi. Marguerite continua. Adeo dolemur at te dividi et tecum profisci maduisemus, set idem factum quod nux sine ulla mora lute cedere iuberis, ac et turbe detinet profiscere ergo frater, profiscere amice, profiscere sine nobis, profiscicentem sequentur spes et desideria nostra. Nous sommes désespérés d'être séparés de vous, quand nous eussions préféré partir avec vous. Mais le même destin qui veut que vous quittiez sans retard Paris nous enchaîne, nous, dans cette ville. Partez donc, cher frère, partez donc, cher ami, partez sans nous, notre espérance et nos désirs vous suivent. On devine aisément que Demouy écoutait avec une attention profonde ces paroles qui, adressées aux ambassadeurs, étaient prononcées pour lui seul. Henri avait bien déjà deux ou trois fois tourné la tête négativement sur les épaules pour faire comprendre au jeune huguenot que d'Alençon avait refusé. Mais ce geste qui pouvait être un effet du hasard eût paru insuffisant à Demouy si les paroles de Marguerite ne fussent venues le confirmer. Or, tandis qu'il regardait Marguerite et l'écoutait de toute son âme, ses deux yeux noirs, si brillants sur leurs sourcils gris, frappèrent Catherine, qui tressaillit comme à une commotion électrique et qui ne détourna plus son regard de ce côté de la salle. « Voilà une figure étrange, » murmura-t-elle, tout en continuant de composer son visage selon les lois du cérémonial. « Qui est donc cet homme qui regarde si attentivement Marguerite et que, de leur côté, Marguerite et Henri regardent si attentivement ?» Cependant, la reine de Navarre continuait son discours qui, à partir de ce moment, répondit aux politesses de l'envoyé polonais, tandis que Catherine se creusait la tête, cherchant quel pouvait être le nom de ce beau vieillard. Lorsque le maître des cérémonies, s'approchant d'elle par derrière, lui remit un sachet de satin parfumé contenant un papier plié en quatre. Elle ouvrit le sachet, tira le papier et lut ces mots. « Mourvel, à l'aide d'un cordial que je viens de lui donner, a enfin repris quelques forces et est parvenu à écrire le nom de l'homme qui se trouvait dans la chambre du roi de Navarre. Cet homme, c'est Monsieur de Mouy. » « Demouy, » pensa la reine, « eh bien, j'en avais le pressentiment, mais ce vieillard, et cospeto, ce vieillard, c'est... » Catherine demeura fixe, la bouche béante. Puis, se penchant à l'oreille du capitaine des gardes qui se tenait à son côté, « Regardez, monsieur de Nancy, » lui dit-elle, mais sans affectation, « regardez le seigneur Lascaux, celui qui parle en ce moment. » Derrière lui, c'est cela, voyez-vous un vieillard à barbe blanche en habit de velours noir? « Celui auquel le roi de Navarre fait un signe ? Justement, placez-vous à la porte du Louvre avec 10 hommes, et quand il sortira, invitez-le de la part du roi à dîner. S'il vous plaît, conduisez-le dans une chambre où vous le retiendrez prisonnier. S'il vous résiste, emparez-vous de lui, mort ou vif. Allez, allez !» Heureusement, Henri, fort peu occupé du discours de Marguerite, avait l'œil arrêté sur Catherine et n'avait point perdu une seule expression de son visage. En voyant les yeux de la reine-mère fixés avec un si grand acharnement sur Demouy, il s'inquiéta. En lui voyant donner un ordre au capitaine des gardes, il comprit tout. Ce fut en ce moment qu'il fit le geste qu'avait surpris Monsieur de Nancy et qui, dans la langue des signes, voulait dire « Vous êtes découvert, sauvez-vous à l'instant même ». De Mouy comprit ce geste qui couronnait si bien la portion du discours de Marguerite qui lui était adressée. Il ne se le fit pas dire deux fois, il se perdit dans la foule et disparut. Mais Henri ne fut tranquille que lorsqu'il eut vu M. de Nançay revenir à Catherine et qu'il eut compris à la contraction du visage de la reine-mère que celui-ci lui annonçait qu'il était arrivé trop tard. L'audience était finie, Marguerite échangeait encore quelques paroles non officielles avec Lascaux. Le roi se leva, chancelant, salua et sortit appuyé sur l'épaule d'Ambroise Paré, qui ne le quittait pas depuis que l'accident lui était arrivé. Catherine, pâle de colère, et Henri, muet de douleur, le suivirent. Quant au duc d'Alençon, il s'était complètement effacé pendant la cérémonie, et pas une fois le regard de Charles, qui ne s'était écarté un instant du duc d'Anjou, ne s'était fixé sur lui. Le nouveau roi de Pologne se sentait perdu. Loin de sa mère, enlevé par ces barbares du Nord, il était semblable à hanter ce fils de la terre qui perdait ses forces soulevées dans les bras d'Hercule. Une fois hors de la frontière, le duc d'Anjou se regardait comme tout à jamais exclu du trône de France. Aussi, au lieu de suivre le roi, ce fut chez sa mère qu'il se retira. Il la trouva non moins sombre et non moins préoccupée que lui-même. En voyant son fils bien-aimé, pâle sous sa couronne, brisé sous son manteau royal, joignant, sans rien dire, en signe de supplication, ses belles mains qu'il tenait d'elle, Catherine se leva et alla à lui. « Oh, ma mère !» s'écria le roi de Pologne, « me voilà condamné à mourir dans l'exil !»« Mon fils, dit Catherine, oubliez-vous si vite la prédiction de René, soyez tranquille, vous n'y demeurerez pas longtemps. » « Ma mère, je vous en conjure, dit duc d'Anjou, au premier bruit, au premier soupçon que la couronne de France peut être vacante, prévenez-moi. »« Soyez tranquille, mon fils, dit Catherine, jusqu'au jour que nous attendons tous deux, il y aura incessamment dans mon écurie un cheval sellé et dans mon antichambre un courrier prêt à partir pour la Pologne. »